Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
La puissance de la prière. Dis avec moi la puissance de la prière. La puissance de la prière, parce qu'il y a de la puissance dans la prière. Il y a deux semaines de cela, nous avons parlé du secret de la réussite de Jésus. Et au travers des Écritures, au travers de la parole de Dieu, le Seigneur nous a montré que la clé de la réussite de Jésus, c'était les temps d'intimité qu'il passait dans la prière avec le Père. C'était ça la clé de sa réussite. Et la semaine dernière, nous avons ouvert un autre volet dans la suite de cet enseignement que nous avons intitulé « Le déclenchement de la puissance ». Dis avec moi « Le déclenchement de la puissance ». Pourquoi nous avons insisté sur le déclenchement de la puissance? Parce que tout simplement, le royaume de Dieu et la puissance ne font qu'un. Tu ne peux pas parler du royaume de Dieu, tu ne peux pas expérimenter le royaume de Dieu sans expérimenter la puissance de Dieu. Si l'Église de Jésus-Christ dans laquelle nous sommes est aussi méprisée aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas de puissance. La puissance, elle est à la fois spirituelle, guérison, toutes sortes de miracles, surnaturels, mais la puissance permet également d'opérer à des dimensions où quand les gens voient ta vie, ils disent « là, c'est pas normal ». Ça, c'est Dieu. Joseph n'a pas fait marcher des malades, des paralytiques. Joseph n'a pas ouvert les yeux des aveugles. Mais la manière dont Joseph est arrivé sur le trône de Pharaon, c'était la puissance de Dieu. Amen. Parce que c'était tout simplement surnaturel. Comment un roi peut se lever un matin et dire... Attends, imagine quelqu'un vient te voir et puis te dit, j'ai fait un rêve cette nuit. Dis-moi, j'ai rêvé de quoi? Dis-moi, j'ai rêvé de quoi? Le roi fait un rêve, il donne un peu la description des rêves avec les bœufs, etc., les vaches maigres, les vaches grasses, etc. Et puis il dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est? En général, les bons chrétiens que nous sommes ont dit, ah, tu sais, pour prier que Dieu te donne l'interprétation. Voilà. Ça, c'était la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est quelque chose qui revient très souvent dans la parole de Dieu. Très souvent. La Bible nous dit « Jésus-Christ enseignait et la puissance de Dieu se manifestait par toutes sortes de guérisons. » Il n'avait pas besoin d'imposer les mains. Les gens, à l'écoute de la parole, la foi venait et ils étaient guéris. Est-ce qu'ils croient que cette dimension est encore possible? Elle est encore possible. Je vous assure, il y a même des gens qui vivent ça encore aujourd'hui. Dans le monde du spirituel, dans le monde du surnaturel, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de distance. Quelqu'un même peut être sur Internet en train d'écouter l'enseignement. Il écoute et au travers de ce qu'il est en train d'écouter, une puissance entre en lui et il guérit. Et je vais y revenir tout à l'heure. On a besoin de puissance. Dis avec moi la puissance.
La puissance.
Tous les enfants de Dieu, tout enfant de Dieu que nous sommes, nous devons chercher une dimension de puissance. Il y a une dimension de puissance que seule la prière fervente active. Et c'est pour cela que Dieu est las, ou las, je ne sais pas comment on dit ça. Dieu est las de certains chrétiens qui sont faibles et qui se découragent vite devant les circonstances de la vie. Alors que le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, on nous appelle des plus que vainqueurs. Mais quand tu regardes la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont faibles.
Et quand tu t'intéresses à leur vie, tu te rends compte que souvent, c'est pour des choses que toi, tu as traversées facilement. Et eux, ils se découragent. Ils ne sont pas plus que vainqueurs, là, ils sont plus que perdants. Mais la Bible nous dit, dans Psaume 68, 28, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ne dit pas « Ton Dieu te demande, il ordonne. » Sois puissant. Ton ta mère, quelqu'un, dis-lui « Sois puissant. » Dis-lui ça bien. Regarde-le. Sois puissant. Arrête d'être faible. Sois puissant. Devant les vicissitudes de la vie, devant les circonstances, devant les épreuves, sois puissant. C'est normal d'avoir des problèmes dans la vie. C'est normal. Le jour où nous n'aurons plus de problèmes, si un jour tu ouvres les yeux et que tu n'as plus de problèmes, c'est que tu es au ciel. C'est que tu es au ciel. Tant que tu seras sur cette terre-là, tu auras toujours des problèmes. La vie est une succession de situations à résoudre, de défis à relever, de problèmes à régler. C'est normal d'avoir des défis à relever. Quand tu as des défis à relever, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que tu es en train d'avancer. Parce que on n'empêche pas d'avancer quelqu'un qui n'avance pas, quelqu'un qui n'est pas en mouvement. C'est quand tu fais du surplace et que tu es dans le statu quo que tu n'as pas d'opposition. On a des oppositions quand tu es en train d'avancer. Et c'est un peu, tu vois, en temps de forte pluie, et tu essaies d'avancer dans le sens contraire du vent. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer normalement. C'est quand tu es en mouvement que les oppositions se lèvent devant toi. Et Dieu est un Dieu de mouvement. La Bible nous dit dans le livre des Actes qu'il est celui qui donne, qui suscite en nous le mouvement et l'être. C'est un Dieu de mouvement. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a jamais fait un miracle de la même manière. C'est un Dieu qui avance, c'est un Dieu qui crée, c'est un Dieu qui est tout le temps productif, tout le temps en train de faire quelque chose de nouveau. Tout le temps, il est en mouvement, tout le temps. C'est pour ça que quand Dieu te regarde, il te regarde et il dit « bouge, sois en mouvement ». L'église que nous sommes là, quand je nous regarde, je vous assure, il n'y a pas plus excité que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il voit ça, pour lui, il veut voir cette salle remplie, débordante au point d'avoir même des tentes dehors. Et vous allez voir, très vite, il va nous dire, trouvez une autre solution, parce que ça commence à devenir petit. Moi, je suis en mouvement. Mais il y en a beaucoup, là, ça leur suffit. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour cela que dès que nous sommes dans une zone de confort, Dieu nous dit, tu es en danger. Parce que moi, je suis quelqu'un qui bouge. Dis avec moi la prière.
La prière.
La prière. On va ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 2, au verset 4. 1 Corinthiens au chapitre 2, au verset 4. Aujourd'hui, on va continuer dans notre lancée. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce point, 8 clés pour déclencher la puissance. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4, c'est Paul qui parle. Et Paul nous dit ceci, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit, dis avec moi d'esprit, et de puissance. » Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je voudrais que tu tournes encore tes pages et que tu ailles au chapitre 4, au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 20, où il est écrit, « Car le royaume de Dieu, dis avec moi le royaume de Dieu, ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Dis encore avec moi le royaume de Dieu. Tu n'es pas dans le monde. Tu es dans le royaume de Dieu. Tout enfant de Dieu, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et qui et qui a reçu le pouvoir, comme dit Jean 1 au verset 12, de devenir enfant de Dieu, cette personne-là vit dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vois le monde autour de toi que ça veut dire que tu es dans le monde. Parce que Jésus-Christ a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Parce que nous ne sommes pas du monde, nous ne fonctionnons pas comme les gens du monde. Quand tu dis que tu es en Christ et que quelqu'un te regarde et qu'il voit quelqu'un qui fonctionne comme un païen, ça le met dans une confusion totale. Parce que toi, tu es un citoyen du royaume des cieux. Dis avec moi, je suis citoyen du royaume des cieux. Tu n'es pas de la terre, tu es du ciel. Tu es un étranger, comme dit la Bible, un ambassadeur de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour, qui est de passage sur la terre. La mort n'est pas quelque chose de tragique pour les enfants de Dieu. Dis avec moi, je n'ai pas peur de la mort. Dis ça bien, je n'ai pas peur de la mort. Parce que la mort n'est pas quelque chose de tragique pour un enfant de Dieu. La mort est une libération. La mort est tragique pour un enfant de Dieu lorsqu'il n'a pas accompli sa destinée. Lorsqu'il n'est pas entré dans le couloir de sa destinée. Lorsqu'il n'a pas vécu dans son ministère. Lorsqu'il n'a pas accompli son ministère. Lorsqu'il n'a pas vécu pour la gloire de Dieu sur la terre. Là, la mort est tragique pour lui. Parce qu'il va aller devant le trône et il va rendre des comptes. Lorsque la Bible dit que nous serons jugés, nous l'Église, et le monde aussi sera jugé, ce n'est pas le même jugement. Le jugement du monde, c'est un jugement pour récompenser selon leurs œuvres et sanctionner. Et beaucoup finiront en enfer. Le jugement de l'Église, nous, ce sera une cérémonie de remise de récompense. Oui. Ce n'est pas pour nous juger, pour nous emmener au cachot, non. Ce sera une remise de cérémonie de récompense. C'est pour cela que les chrétiens qui aiment toujours dire « Oh, nous sommes tous égaux en droit devant Dieu, etc. » C'est faux, mon ami. Parce que Paul n'aura pas la même récompense que toi, je t'assure. Parce que Paul, il a écrit toute la Bible. C'est à cause de lui que tu arrives à lire la Bible. Donc, tu peux t'assurer que Paul sera très distingué dans le royaume des cieux. Paul n'a pas encore reçu la récompense. Hein. Il nous attend. Il nous attend. Il va attendre le dernier. Parce qu'il veut que même le dernier à entrer au ciel voit la récompense qu'on va lui donner. Hein? Et le royaume de Dieu dans lequel nous sommes est un royaume qui fonctionne et qui opère dans la puissance. C'est pour cela que Jésus-Christ, lorsqu'il arrive et qu'il commence à parler du royaume de Dieu dans les évangiles, tout ce qu'il disait était accompagné d'une démonstration de puissance. Je ne dis pas que demain, là, nous allons faire les mêmes miracles que Jésus. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il y a une dimension de puissance que Dieu a mis à notre disposition, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens. Et il n'attend qu'une chose, c'est qu'on active ça. Et ça s'active dans la prière. Dis avec moi la prière. La semaine dernière, on a dit beaucoup de choses sur ce point. Et on a terminé sur un point très important qui était la nouvelle naissance. J'ai dit que la nouvelle naissance est le commencement d'une nouvelle vie pour la personne qui l'expérimente. Et la nouvelle naissance, lorsque l'on naît de nouveau, il y a un dépôt dans notre vie que l'on appelle la puissance de Dieu. Et cette puissance-là et cette autorité ou encore ce droit que nous avons lorsque nous élevons la voix devant le trône et que le ciel s'active pour nous. Jésus-Christ a dit « Je vous donnerai les clés du royaume ». Mais ces clés sont à disposition. C'est comme si tu n'as jamais remarqué que, imagine tu es à la maison et puis tu retrouves un trousseau de clés que tu avais perdu depuis longtemps. Mais tu ne sais plus à quoi servent ces clés. Tu as le trousseau de clés, tu sais que c'est à toi, tu sais que ça ouvre quelque chose dans la maison, mais tu es là, mais ça ouvre quoi encore? Et puis tu commences à essayer sur les différentes serrures. Mais ça, c'est la clé de quoi ça? C'est exactement la même chose. Les enfants de Dieu, les fils du royaume de Dieu, sont des personnes qui ont à leur disposition des clés, mais qui ne les utilisent pas. Qui ne les utilisent pas. Et les clés, c'est la puissance. Lorsque Jésus-Christ se tient devant le peuple, et les disciples lui disent, renvoie-les, car nous n'avons rien pour les nourrir. Ils sont fatigués. Jésus-Christ eut compassion, car il les vit comme des brebis sans berger. Ô Seigneur, renvoie-les, nous n'avons rien à manger à leur donner. Il dit, eh bien, donnez-leur vous-même à manger. Oh, nous n'avons rien, qu'avez-vous? Juste deux pains et trois poissons, emmenez-moi ça. Je vous assure que cette scène-là, les disciples regardent le peuple. Il y avait près de 15 000 personnes ce jour-là. Et regardent Jésus avec le petit panier entre les mains. Et disent, là, on est bien curieux de savoir ce qu'il va faire. Parfois, quand tu lis la parole de Dieu, il faut t'arrêter. Il ne faut pas aller trop vite. Et tu médites sur ce que tu es en train de lire. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fit? Il rendit grâce. C'est ce passage-là qui nous montre que l'action de grâce est une clé très puissante. Le fait de dire merci là, non, merci. Quand tu dis merci à Dieu, alors que tu es dans la douleur, et tu dis à Dieu merci, c'est une prière très puissante, hein, je vous assure. C'est une prière très très puissante. Parfois quand tu n'as pas beaucoup de choses à dire, tu regardes juste Dieu du plus profond de ton cœur et tu dis, Seigneur, merci. Le merci que tu dis là, comme le merci que Anne était en train de dire où elle bougeait juste les lèvres et puis Samuel là-bas dit qu'elle était ivre. Non, elle disait, merci. C'est pas grave. Pénina m'insulte parce que je suis stérile, soi-disant. Merci. Merci pour la vie que tu me donnes et merci pour l'enfant que tu me donnes. Il y a une puissance qui est sortie du merci là et qui a fait qu'elle est devenue enceinte. Amen. Et la nouvelle naissance en Jésus-Christ, quand nous sommes dans le royaume, quand nous naissons de nouveau, il y a un dépôt de puissance. Celui qui naît de nouveau, le jour où il naît de nouveau, le ciel, c'est comme si le ciel s'ouvre pour lui. Le ciel est à sa disposition. Les anges attendent. Les anges attendent que tu ouvres la bouche et que tu commences à... C'est pour cela que quand Jean voit l'ange dans Apocalypse et qu'il veut se prosterner, l'ange dit « Non, je suis à ton service. Ordonne et j'agis. C'est tout. » Parfois, quand tu marches dans la rue, là, et puis il y a une souris qui passe. L'ange dit « Mais toi aussi. Moi, Mickey, je suis à côté de toi et puis tu sautes à cause d'une souris. Oh, tu sais, hein, faut pas sortir là-bas. Là-bas, là, tu sais, il y a des choses bizarres, il y a des sorciers qui se baladent. Et alors, je vais même, ils vont bien me voir. » Tout à l'heure, j'ai dit, le sorcier qui peut te tuer n'est pas encore né. Est-ce que tu crois en ça? Il n'est pas encore né. Mets toute ta confiance en Jésus-Christ. Le jour où Dieu va t'accorder la révélation de la puissance de Jésus-Christ dans ta vie, aïe, tu vas être comme le serviteur de Élisée qui, lorsque Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux et qu'il voit. Et lorsqu'il vit l'armée, lui aussi, comme son maître, il se mit à dormir. Oui, il dormait. Parce qu'il était conscient qu'il y avait une puissance qui les gardait. Amen. Donc la nouvelle naissance en Jésus-Christ est une initiation dans la puissance divine. Et plus tu grandis et plus tu parviens à la révélation de la parole de Dieu et plus tu comprends que Dieu a mis tout à notre disposition pour que son nom soit glorifié dans notre vie. Et connaître son identité est la chose la plus importante. Et lorsque nous élevons nos voix dans la prière, nous devons savoir, comprendre ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que chaque fois que je vois quelqu'un qui s'ennuie dans la prière, je dis, voici quelqu'un qui n'a pas compris ce que nous sommes en train de faire. Voici quelqu'un qui n'a pas compris la prière. Les disciples n'avaient pas compris la prière. Mais ils ne comprenaient pas comment Jésus-Christ arrivait à faire autant de miracles. Mais lorsqu'ils l'ont observé, ils sont venus, ils ont compris que ce gars-là, les moments qu'il passe seul, parce que la Bible dit que Jésus-Christ s'isolait pour prier, parce que la Bible ne nous montre jamais Jésus en train de prier avec les autres. Il priait toujours seul. Et les moments que tu passes seul dans la prière sont des moments très importants parce que ce sont des moments où tu es en train de charger tes batteries. Tu charges. Tu te remplis du Saint-Esprit. Et quand tu vas à l'extérieur, tu travailles pour le Seigneur. Et ils avaient compris que Jésus-Christ passait près de 4 heures dans la prière par jour et passait très peu de temps à opérer dans la ville. Mais nous, on passe très peu de temps dans la prière et on passe beaucoup de temps à nous débattre dans la basse-cour du monde. Amen. Le royaume de Dieu dans lequel nous sommes est un royaume qui est caractérisé par la puissance. Et lorsque nous naissons de nouveau, on est passé d'un état à un autre. On est passé de l'état naturel à l'état surnaturel, à l'état de fils de Dieu. On est passé de l'état animal, c'est-à-dire du non-croyant, du païen, de l'homme animal à l'homme spirituel. Et en tant qu'homme spirituel, tout ce qu'on fait, on le fait dans l'esprit. Dis avec moi, dans l'esprit. Et une fois que tu es sauvé, tu deviens une personne remplie de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il faut être conscient de ça. C'est pour cela que le jour où quelqu'un te menace, réponds-lui, je crois que tu ne sais pas du tout à qui tu as affaire. Que Dieu te fasse grâce et te pardonne. S'il te frappe, Jésus-Christ a dit, tends-lui l'autre joue. En fait, l'histoire de tendre l'autre joue là, en fait, la réponse, c'est une façon de dire à l'autre, maintenant que tu m'as giflé sur l'autre joue là, quand je vais élever la voix et que je vais citer ton nom dans ma prière, tu vas transpirer. Moi, avec ma femme, c'est comme ça qu'on prie. Quand on se lève dans la prière la nuit, dis à quelqu'un, il faut prier la nuit. Quand tu pries la nuit et que tu commences à citer les noms des gens dans la nuit dans la prière, tu es dangereux. Tu es dangereux. Le nom de la personne que tu cites là, dans son lit là-bas où elle dort, tout d'un coup dans son rêve, elle voit ton visage qui vient. Parce que tu as cité son nom. Oui. Et si elle a ton dossier, le visage là ne va plus quitter son visage. Elle va partir au travail. Son nom va résonner dans sa tête. Boum, 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 boum. Parce que tu as dit dans la prière, Seigneur, que cette personne ne trouve pas la paix jusqu'à ce qu'elle ait réglé mon dossier. Au nom de Jésus-Christ. Il travaille, il entend seulement ton nom. Boum, boum. Oh, mais la personne là me fatigue. Il faut que je signe son papier. Oui. Il ne faut pas négliger la puissance de la prière. Et la puissance de Dieu, la puissance divine, on ne peut y avoir accès que par la prière. Qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu soit libérée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, quand nous prions, la question maintenant que je nous pose, c'est d'où nous vient l'autorité que nous avons quand nous prions? D'où nous vient cette autorité-là? D'où nous vient cette capacité-là à activer les choses? D'où nous vient cela? Ça nous vient de ça. Éphésiens 2 au verset 4. Éphésiens 2 au verset 4 nous dit ceci. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Dis avec moi ensemble.
Ensemble.
Ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Dis avec moi ensemble.
Ensemble
dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette parole, en d'autres termes, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que Dieu attend de nous, c'est-à-dire de toi et de moi, que nous commencions, lorsque nous prions, à opérer ou encore à déclarer les choses depuis notre position assis sur le trône en Christ. Et non pas depuis notre condition. Tu es peut-être pauvre aujourd'hui, mais Dieu dit, quand tu pries, dis que tu es riche. Tu es peut-être faible, mais Dieu dit, prie et dis que tu es fort. Si tu pries selon la condition, tu vas dire, Seigneur, pauvre de moi, fais-moi grâce. Dieu dit, ça c'est une prière que l'on n'exauce pas au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de pauvre. Oui, mais on est pauvre sur terre. Non, mon fils. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu es pauvre. La vérité, c'est que tu es quelqu'un de très riche. Et Dieu dit qu'il nous a bénis, Éphésiens 1, 3, de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Le mot « bénir », là, c'est le mot grec « eulogio » dont on a tiré le mot en français « éloge ». Qui veut dire quoi? Qui veut dire simplement « faire des éloges à quelqu'un ». Le jour où tu es venu à Christ et que tu es né de nouveau, Dieu t'a regardé comme un papa regarde son enfant à la naissance et Dieu a commencé à déclarer des paroles sur toi. Et Dieu a dit « tu es riche, tu es beau, tu es prospère, tu es réussi dans tout ce que tu fais, tu es béni à ton départ et à ton retour ». Tu prends la liste des bénédictions dans Deutéronome chapitre 28 et tu regardes ça et tu dis, ça c'est pour moi. Tes entrailles sont bénies. La stérilité ne sera jamais ton partage. Tu seras toujours fécond. Tu es fécond dans ta chair, mais tu es aussi fécond dans tes projets. Tu es quelqu'un de très intelligent. Tu es rempli de sagesse. Le jour, si tu as un enfant et que tu entends quelqu'un qui dit à ton enfant, mais tu es bête, hein? Tu dis, la parole que vous venez de dire là, je la remets sur vous, vous êtes bête vous-même. Parce que tout simplement, ce n'est pas l'identité de ton enfant. Amen. Donc, Dieu n'attend pas de toi que tu, quand dans la prière, quand tu pries, que tu regardes à ta condition. Il attend de toi que tu regardes à ta position en Christ, c'est-à-dire assis sur le trône. Ah, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Au moment où je suis en train de te parler là, en esprit, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voici la vérité. La réalité, c'est que tu es assis en ce moment dans un bâtiment engagé sur une chaise grise. Ça, c'est la réalité. La vérité, c'est qu'en esprit, tu es assis sur un trône glorieux en Jésus-Christ au ciel. En esprit. Voici la vérité. Tu as déjà vu un roi lorsqu'il donne un ordre. Oh, pauvre que je suis. Non, le roi, quand il parle, c'est « Faites ça !» Point. Et nous, quand nous prions, nous devons apprendre à prier avec autorité. Dis avec moi autorité. Quand tu pries avec autorité. Il y a les temps où tu es devant la face de Dieu et que tu rends grâce, tu supplies. D'accord? Mais il y a les prières de foi et d'autorité où quand tu fermes les yeux, tu commences à visualiser le monde autour de toi et tu prends autorité. Tu es là devant la personne et tu sais que là, il y a un esprit. Tu prends autorité. Jésus-Christ arriva chez la mère de Pierre et la mère de Pierre était couchée sur le lit. Elle avait une fièvre. Si c'était toi, tu aurais dit, voilà la pharmacie là d'avoir, on va m'acheter le Doliprane. C'est ce que tu aurais dit. Mais Dieu te dit, prie. Impose-lui les mains et prie. Si la fièvre persiste, tu persistes. Si elle persiste encore, tu persistes encore. Oui, par sagesse, tu iras acheter le médicament et tu donneras le médicament. D'accord? Mais avant d'acheter le médicament, tu pries d'abord. Amen. Oui, amen. Gloire à Dieu. Donc, opère depuis ta position en Christ et non pas depuis ta condition. Parce que Dieu ordonne que tu sois puissant et non faible. La conquête des promesses dans laquelle nous sommes, c'était le thème de notre année, il n'y a que les vaillants qui s'en emparent. Dans le royaume de Dieu, ceux qui remportent des victoires, ce sont ceux qui sont vaillants et violents. Ceux qui ont compris leur identité et qui travaillent dans leur autorité. C'est pour cela que l'Église n'est pas dans la victoire aujourd'hui. C'est pour cela que l'Église est dans la défaite. L'Église n'a pas autorité. Quand l'Église prie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais malheureusement, il y a beaucoup de lieux où on va et l'Église ne prie pas. J'ai dit ça il y a 2 semaines. S'il y a bien un lieu, s'il y a bien plutôt une réunion dans les églises où il y a très peu de gens, ce sont les réunions de prière. Le dimanche, c'est plein. Pourquoi le dimanche, c'est plein? Parce que les gens aiment les ambiances. Les gens aiment les foules. Les gens aiment la musique. Les gens aiment les divertissements. Les gens aiment ça. Mais la prière, quand on te dit on va prier pendant 2 heures, tu sais que là, pendant 2 heures, il n'y aura pas de musique. Pendant 2 heures, on ne va pas être assis. On va être debout, soit couché par terre. Tu dis, on va se voir dimanche. Voilà. Tu manques quelque chose. Quand il s'agit de rester devant le journal télévisé de 20 heures, pour critiquer les hommes politiques. Oh, cette semaine, il y a un homme politique qu'on a attrapé, il faisait de la fausse monnaie, on l'a mis en prison. Oh, là, tu es fort dans le Congo, ça. Là, tu sais beaucoup parler. Là, tu parles. Oh, mais tu sais, en 2016, on va voir qui va gagner. Là, pour parler, on est fort. Frère, conclue la réunion de prière et prie. Seigneur, merci. Merci, papa. Alléluia, amen. Là, tu parles plus. Parce que tu pries pas. Quand il y a une situation difficile qui arrive, tout de suite, tu fonds là. Voilà, c'est compliqué. Prie! Même elle pleurait, elle a prié. Oh, pasteur, pasteur, oh, pasteur, oh, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il m'a menacé, il a dit qu'il allait me faire mal, il allait me faire sa dure. Et alors? Mais, dans la famille, là, tous les gens à qui il a dit ça, tous les gens sont morts. Pasteur, je sais la puissance de la prière, le déclenchement de la puissance, mais pasteur, priez pour moi. Je ne prie pas pour toi, prie toi-même. Oh, mais comment vous pouvez me dire ça? Vous êtes pasteur? Et alors? Je prie pour moi d'abord. Tu sais, quand on a la guerre, chacun a son bouclier. Hein? Si moi je prends mon bouclier pour te protéger, moi j'ai plus de bouclier, Dieu. Moi je prends les flèches. Donc moi je me protège d'abord. Je te donne un peu, mais je reviens pour chez moi. Parce que quand je te donne un peu là, il y a un petit trou que j'ai laissé. Non, je me protège d'abord moi. Tu vois, non? Donc on priera toujours pour les uns et les autres. Mais la prière la plus efficace, c'est d'abord ta prière. Amen. Ah ben oui. On pourra prier pour que tu guérisses. On pourra prier pour que tu sois sauvé. On pourra prier pour te fortifier, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais la prière la plus efficace, c'est ta prière. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Oui, le royaume de Dieu, c'est les vainqueurs qui s'en emparent. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit cette parole, Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Dans le royaume de Dieu, en Christ, il faut être violent. Quand il s'agit d'héritage, on est violent. Je n'ai pas besoin de vous enseigner ça. Il vous suffit de regarder dans le monde. Vous allez voir que dès que papa et maman sont morts, les frères se disputent. Parce qu'ils agissent avec violence. Ils disent, c'est pour moi. Papa n'a pas dit que c'est pour toi. Donc c'est le plus fort qui va l'emporter. Ça, c'est les parents qui n'ont pas eu beaucoup de sagesse et de dire et d'attribuer l'héritage à chacun. Et en général, dans la famille, c'est celui qui est plus fort, c'est celui qui a les bras les plus longs, c'est celui qui a le plus d'argent, qui connaît le plus de monde, qui garde tout pour lui. Toi, si tu es faible, c'est fini pour toi. Et dans le royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Mais dans notre royaume, dans le royaume de Dieu, gloire à Dieu pour le Seigneur que nous avons, quand Jésus-Christ dit ce sont les violents qui s'en emparent là, par la grâce de Dieu, il a quand même prévu une part pour tout le monde. Mais en ce qui concerne ton héritage sur la terre, je t'assure, tout comme Dieu a dit à Josué, vous allez devoir vous battre pour prendre votre Canaan, ton Canaan, tu vas devoir te battre. J'ai pour habitude de dire que ce n'est pas parce que tu mérites le meilleur dans la vie que la vie va te le donner. Tu vas devoir te battre pour avoir ce qui est à toi. Si tu ne sais pas te lever le matin pour aller chercher du travail ou bien pour créer ton entreprise, tu vas finir pauvre et tu vas souffrir toute la vie. C'est aussi simple que ça. Seigneur, pourquoi? Eh bien, écoute, le monde est fait ainsi. Va demander à ton grand frère Adam qui a péché. S'il n'avait pas péché, tout le monde aurait été bien. Mais Adam, à cause de ce qu'il a fait, le monde est devenu comme ça. Donc maintenant, on doit transpirer. Si tu es faible, les gens te regarderont et ne feront rien pour toi. Tu vas devoir te lever et travailler. Et dans l'Église, nous avons, nous, une autre mentalité, c'est que oui, on travaille pour nous. Oui, on travaille pour chacun pour soi, mais on sait aussi se soutenir les uns les autres pour avancer tous ensemble, parce que nous sommes un corps. Amen. Et en Christ, nous avons un héritage. Et notre héritage, je déclare que nous le possédons au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire une chose, c'est qu'il est temps pour toi de monter à la montagne de la prière pour réclamer ton héritage. Il est temps. Depuis que tu es là, les choses ne bougent pas. Peut-être parce que tu ne pries pas. Peut-être parce que tu n'es pas suffisamment violent. Quand tu es en train de prier, quand tu passes du temps dans la prière, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit au niveau de ta foi. Tu es fortifié. Tu trouves du courage de commencer à poser des actes. Il y a par exemple des zones de confort dans lesquelles tu as peur de sortir parce que tu te dis, qu'est-ce que je vais faire si je laisse tomber ça, telle activité, etc. Mais je t'assure, tu vas devoir t'armer de courage pour y aller. Et pour le faire, tu as besoin d'aller chercher la face de Dieu. Quand on vient dire à Jésus que Lazare est mort, attends, c'est Jésus quand même. C'est Jésus qui sauve les gens, c'est Jésus qui guérit les malades, c'est Jésus. Mais quand tu lis la Bible, regarde bien le verset d'après. On vient dire à Jésus que Lazare était mort, point. Jésus s'en alla. Il partit. Quand il partit là, les gens auraient pu dire, Jésus, on vient de te dire que Lazare est mort, va le ressusciter. Lui, il s'en va. Vous savez pourquoi il est parti? Il allait chercher Dieu dans la prière. Parce que là, ce n'était pas une petite affaire, la résurrection de Lazare. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la foi. C'est qu'il fallait qu'il entende la voix de Dieu. Et il est parti chercher 4 jours. Il aurait pu dire au père, mais père, pourquoi on attend 4 jours en fait? On peut le ressusciter aujourd'hui. Le père dit non, je veux que ce soit le plus tard possible pour qu'on sache que c'est bien moi qui l'ai ressuscité. Il faut qu'il sente mauvais là. Faut qu'il sente mauvais. Et la Bible nous précise bien, il sent déjà. Dieu attend souvent que les situations sentent vraiment mauvais dans ta vie pour se glorifier. Il fonctionne comme ça. Tu l'as, oh Dieu, quand est-ce que tu vas venir? Seigneur, je te supplie. Dieu dit, faut que ça sente, faut que ça pue. Comme ça, quand je viens là, je sais que j'ai plus rien à faire pour toi. Il n'y a que moi qui peux te sortir de là. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il y a des situations, je t'assure, tu penses que c'est fini. Tu penses que tu es fini. Et tu vois juste comment la porte s'ouvre d'un. Tu dis, ah, je vous assure, quand on va être au ciel devant le Seigneur, on va lui demander, pourquoi tu es comme ça? On va poser des questions à Dieu quand on sera devant le trône. On va dire, pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu permettais certaines situations? Pourtant, tu aurais pu... Pourquoi? Mais on ne sait pas. Dans sa sagesse, il permet que les choses se passent comme ça. On va ouvrir nos Bibles. Apocalypse chapitre 4 nous dit une chose très importante. C'est un passage très important. Apocalypse chapitre 4 au verset 1. Moi, je vais lire dans la version parole vivante. Version parole vivante. On y va. Après cela, j'eus une nouvelle vision. Dans vos versions, beaucoup de versions, c'est « je regardais ». J'eus une nouvelle vision. C'était comme une porte ouverte. Dis avec moi une porte ouverte. Par laquelle je pouvais voir à l'intérieur du ciel. J'entendis la voix qui m'avait déjà parlé au début. Cette voix claironnante. Semblable à celle d'une trompette. Elle m'invita en ces termes. Monte ici. Dis avec moi, monte ici.
Monte ici.
Dis encore, monte ici.
Monte ici.
Et je te découvrirai ce qui doit arriver dans l'avenir. À l'instant, l'esprit se saisit de moi et voici ce que je vis au milieu du ciel. Un trône était dressé, quelqu'un y siégeait. Je pouvais voir dans le ciel. L'esprit me saisit. Ici, là, on parle de prière. Pourquoi la voix lui dit, la voix ici que j'entendis, c'est la voix du Saint-Esprit. Pourquoi la voix lui dit, monte ici. La voix est en train de lui dire, passe à un autre niveau. Parce qu'il y a une dimension pour voir. Il y a une dimension que tu ne peux voir, que tu ne peux expérimenter que quand tu es en hauteur. Quand tu es sur la route, dans la route, avec tout le monde, tu ne vois que les bâtiments qui sont à ta droite et à ta gauche, et ceux qui t'entourent, à moins de 50 mètres. Mais quand tu vas sur un bâtiment de 20 étages, tu vois toute la ville, n'est-ce pas? Ta perception est différente. Tu es en hauteur. Vous pensez que Dieu s'identifie à l'aigle dans la Bible? Pourquoi? Parce que l'aigle est l'oiseau qui vole toujours le plus haut. Et l'aigle est un oiseau, ah, parce qu'il vole très haut, il voit large. Et Dieu te dit, Dieu dit à Jean, monte ici. Et je fus saisi par l'esprit. Et voici, au milieu du ciel, un trône était dressé. Quelqu'un y siégeait. Le trône de Dieu est un trône qui est en hauteur. Tous les passages de la Bible où le trône de Dieu est révélé, c'est toujours un trône en hauteur. Et quand tu dois aller dans la prière pour chercher la face de Dieu, Dieu te demande toujours d'élever le niveau. Dieu ne te demande pas de prier les petites prières. Il y a une dimension surnaturelle dans la vie en Christ que l'on ne peut expérimenter quand on élève le niveau. Quand on prie. Pas les petites prières que l'on voit les gens faire dans les églises. Il y a prière et prière. Il y a une dimension de puissance que l'on ne peut expérimenter dans notre vie que lorsque l'on élève le niveau dans la prière. Les disciples venaient de voir Jésus s'en aller. Ils avaient reçu les instructions. Jésus leur avait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle. baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, voici, à tous ceux qui auront cru, les miracles qui les accompagneront, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons, etc., etc. Ok, Jésus est parti. Et après, quand on lit la Bible, il ne s'est plus rien passé. Ils étaient là. Tout le monde a regardé Pierre. Tout le monde a dit à Pierre, bon, Pierre, c'est toi le chef, on fait quoi? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prier. Et vous savez le lieu où ils priaient, on appelait ça comment? La chambre haute. Parce que c'est en haut que ça se passe. C'est en haut qu'on voit Dieu. C'est en haut qu'on entend la voix de Dieu. Dis avec moi, élève le niveau. Il y a des situations, tu ne comprends pas dans ta vie qui persistent. Tu fais tout, mais ça ne se règle pas. Parce que tout simplement, tu n'as pas encore élevé le niveau. Il y a des problèmes que tu ne peux régler que quand tu élèves le niveau, quand tu montes à la montagne de la prière. Il y a un pasteur, je ne me rappelle plus de son nom, qui a appelé son ministère comme ça, non? La montagne de prière ou la montagne de feu, je ne sais plus. J'aime bien ce nom. Et c'est un ministère qui est basé sur la prière et la délivrance. Montagne de feu, je crois. À la montagne, on est en haut. On est en haut. Et chaque fois que vous voyez dans l'Ancien Testament l'expression « la montagne de Dieu », il parle ici de l'Église. La montagne de Dieu, c'est là où Dieu est. Et si nous, l'Église, nous commençons à prier pour un sujet, tous ensemble, je vous assure, les gens à l'extérieur ont très peur. Parce que l'Église, quand elle se met à prier, c'est pour cela que quand on regarde la situation économique et même politique dans notre pays, moi je regarde les gens parlent, beaucoup de gens parlent. Les gens parlent, les gens donnent leurs opinions, les gens critiquent, les gens insultent, calomnient, dans tous les côtés. Moi je regarde les gens et puis je dis, ils n'ont pas compris que là, c'est spirituel notre pays là. Faut prier. C'est dans la prière qu'on va changer les choses. Mais si l'Église dort, les crimes rituels montent dans le pays. L'Église dort. Crime rituel. Et il paraît qu'aujourd'hui, ça continue, non? Mais on n'en parle plus. Mais il paraît qu'il y en a toujours. Mais le jour où l'Église va se lever, on va dire ok. On déclare, conférence de presse à la télévision, que l'Église de Christ se met à prier. Et toutes les personnes qui commettent ces attentats, leurs noms vont être cités devant le trône et les prochains sacrifices qu'ils vont faire, ils vont mourir eux-mêmes. Oh, ils racontent des histoires. Et puis tout d'un coup, tu entends que oh, telle personne est morte. Oh, on ne sait pas comment on l'a retrouvé mort chez lui. Oh, ça, c'est la prière. Je ne dis pas que quand on prie pour la mort des gens. L'Église, un chrétien ne prie pas pour que quelqu'un d'autre meure. Mais le royaume de Dieu appartient aux violents, mon ami. Si tu viens nous chercher et nous tuer, c'est toi-même qui vas... Oh. Moi, je ne dis pas... Regarde ce que l'ange Michael dit à Satan quand il se dispute le corps de Moïse. L'ange Michael ne dit pas que tu meurs tout de suite. L'ange Michael dit que Dieu te réprime. Genre, moi, je n'ose pas te frapper, mais si Dieu, c'est Dieu qui va te frapper. Donc, si vous continuez vos choses, c'est Dieu qui va régler votre compte. Et quand nous commençons à prier... Ah. C'est pour ça que quand quelqu'un te fait du mal, tu le regardes, tu dis, je ne te rends pas le mal. C'est Dieu qui est notre juge. Mais je t'assure, je suis quelqu'un qui prie. Et s'il y avait quelqu'un de dangereux dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui plie les genoux. Quand je commence à plier les genoux et que je commence à pleurer là, et que je cite ton nom, Dieu va dire, oh mon ado. Tu penses que Dieu n'a jamais frappé David, pourquoi? Regarde. David, il commet le péché d'adultère avec Bathsheba. Dieu, au lieu de le frapper, et en plus à l'aide de Moïse, dit que c'est lui qu'on doit frapper. Dieu tue l'enfant. Il appelle Joab, il dit à Joab, fais le dénombrement du peuple. Joab dit, ah Seigneur, ça c'est un grand péché, on ne fait pas ça. Là, il dit, Satan excita David, fais le dénombrement. Dieu frappe qui? Dieu frappe le peuple. Et là, il dit, 20 000 personnes mourir en un jour. Et lui, il se met à crier à Dieu, Seigneur, c'est moi qui ai péché. Pourquoi tu frappes? Ce ne sont que des brebis. Ce que David n'avait pas compris, c'est que Dieu ne voulait pas le tuer. Dieu disait, mais un adorateur sur terre comme toi, je vais trouver ça où? Parce que la manière dont tu m'adores là, je n'ai pas trouvé ça ailleurs sur terre. Donc, je préfère que tu meurs d'une longue vieillesse, tu vois? Comme ça, on a le temps encore. Un adorateur, c'est quelqu'un d'extrêmement important aux yeux de Dieu. C'est pour cela que l'adoration par la prière est quelque chose de magnifique. Amen. La dimension de l'esprit. Dis avec moi, monte ici. Je pouvais voir dans le ciel. Quand tu pries, la prière t'amène à voir ce qui se passe dans l'esprit. La prière t'amène à visualiser loin. La prière t'amène à être en hauteur. L'Esprit de Dieu, la Bible dit, Genèse 1 au verset 2, l'Esprit de Dieu était au-dessus. En fait, le mot au-dessus là, de l'Esprit de Dieu en hébreu, c'est un mot qui veut dire couvé ou encore incubé. C'est-à-dire c'était à l'intérieur de lui en fait. Ça veut dire couvé, comme une maman poule couve ses œufs. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout se passe en lui. Quand tu pries et que tu entres dans la dimension de l'Esprit, c'est cela que tu expérimentes. Tu couvres ou encore tu incubes dans l'Esprit un certain nombre de choses. Et c'est seulement quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, de même au son de ta voix, quand tu déclares les choses, elles sont libérées. Dans l'Esprit. Dis avec moi dans l'Esprit. Je pouvais voir dans le ciel un certain nombre de choses. Monte ici. Prier en hauteur. Prier dans la dimension de l'Esprit, c'est prier dans une dimension. Il y a différents types de dimensions. Quand tu étudies les Écritures, il y a différents types de dimensions. J'ai même envie d'appeler ça différents types de royaumes. Il y a différents types de royaumes. Il y a par exemple le royaume, le premier royaume, le tout premier royaume, c'est le royaume de Dieu. Amen. Dis avec moi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Au-dessus du royaume de Dieu, il y a le royaume angélique. Les anges n'ont pas accès parce que le royaume de Dieu est un royaume qui est invisible dans l'invisible. Satan est un ange, mais Satan n'a pas accès au royaume de Dieu. C'est un royaume qui est invisible même aux anges. Seuls les anges que Dieu a approuvés peuvent avoir accès, tels que Michael, Gabriel et les autres. Mais les anges déchus, Satan, etc., ne peuvent pas avoir accès. Ça, c'est le deuxième niveau. Ensuite, au-dessus, en dessous, il y a un autre royaume que l'on appelle le royaume atmosphérique. L'univers, les planètes, toutes ces choses-là. Ça, c'est tout un royaume. Les astres, le soleil, la lune, etc. Ensuite, il y a encore un autre royaume. Le royaume animal. Le royaume animal. Les animaux que l'on voit sur terre, les oiseaux, etc., etc. C'est tout un royaume. Et dans ce royaume-là, animal, le chef, si on peut dire ça ainsi, c'est celui que Dieu identifie souvent dans la Bible, l'aigle. Vous voyez ce que je veux dire? L'aigle. Il y en a un autre aussi qui est aussi identifié comme chef, c'est le lion. Vous n'avez pas remarqué que Dieu s'identifie toujours au lion et toujours à l'aigle? Pourquoi? Parce que ce sont des chefs dans leur royaume. Ce sont des chefs. C'est pour ça qu'on parle de l'aigle royal, qui peut faire près de 11 mètres quand il étend ses ailes. C'est un oiseau gigantesque. Tu sais, c'est quoi? C'est énorme, hein? Il est gigantesque, cet aigle-là, quand il étend ses ailes. Et on l'appelle l'aigle royal. En dessous de ce royaume-là, il y a ce qu'on appelle le royaume végétal. Le royaume des plantes, etc. Vous n'avez pas remarqué que même certains médicaments sont pris des plantes? Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. C'est tout un royaume, le royaume végétal. En dessous du royaume végétal, il y a le royaume que l'on appelle le royaume des virus. Tout ce qui est virus, là où il y a les maladies, etc. C'est tout un royaume. C'est pour cela que les hommes, chaque fois qu'ils trouveront la solution à une maladie, il y a toujours une autre maladie qui vient. Il y a eu la peste, on a trouvé la solution à la peste. Ensuite, il y a eu les choses comme Ebola. Après, il y a eu le sida, il y a le cancer. Tout ça, là, c'est un royaume. Ils sont nombreux là-bas. Vous allez voir, quand on va trouver la solution au sida, il y a encore un autre qui va venir. Et en dessous de ce royaume-là, il y a le royaume atomique. Et d'ailleurs, même, j'en ai même sauté un. Après le royaume végétal, il y a le royaume des pierres. C'est là où il y a les pierres précieuses, le diamant, l'émeraude, l'onyx, etc. Tout ça, c'est un royaume. L'or, etc. Ensuite, le royaume des virus. Et après, le royaume de l'atome. Et le royaume de l'atome, c'est un royaume qui est pratiquement invisible. Il faut vraiment des grosses loupes là, dans la science là, pour pouvoir trouver, voir ces choses-là. Et enfin, le dernier royaume, c'est le royaume de l'homme. L'homme, c'est le dernier royaume qui est en dessous. Quand Adam a péché, il est passé du royaume de Dieu, où il était, tout en bas. C'est pour cela que les animaux, les virus, toutes ces choses-là font ça dur à l'homme. Parce qu'il est en dessous. Donc, tous ces royaumes-là dominent sur lui. Et à cause de la nature pécheresse, il ne peut pas dominer sur ces royaumes-là. Mais c'est pour cela que la Bible nous dit que Christ nous a fait asseoir. Quelqu'un qui naît de nouveau, qui vient en Christ, la Bible dit qu'il est rétabli à sa position initiale, royaume de Dieu. Amen. Donc, quand tu pries et que tu entres dans la dimension de l'esprit, c'est une dimension où tu es au-dessus de tout ça. C'est pour cela que Josué, en pleine bataille, à quel royaume il s'adresse? Il s'adresse au royaume atmosphérique et il dit au soleil, tu t'arrêtes. Il donnait un ordre à ce royaume-là. On a besoin de vous pour pouvoir gagner la bataille ici sur terre. Tu t'arrêtes. Ce sont des passages surnaturels. Jésus-Christ arrive et puis il voit les gens malades de toutes sortes de maladies. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes que Jésus-Christ fut oint par l'Esprit de Dieu, etc. Et partout où il allait, il faisait du bien, etc. Et guérissait les gens de l'emprise de Satan. Il ne dit pas guérissait les gens de maladies, il dit guérissait les gens de l'emprise de Satan. Donc les maladies, etc. Tout ça, c'était la domination de Satan sur l'homme. Et le royaume de Dieu venait pour détruire tout ça. Et un enfant de Dieu, lorsqu'il commence à comprendre les choses de l'esprit, le surnaturel, il l'opère depuis sa position en Christ. Et quand il prend autorité, c'est pour ça qu'en Christ, Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront. C'est les miracles pour vous qui êtes sur terre, mais au ciel, ce n'est pas un miracle. C'est quelque chose de normal de chasser un démon. Parce que le démon, face à un enfant de Dieu, c'est quelqu'un dont le royaume est en dessous. Donc quand le démon te regarde, il voit un roi, rempli de puissance, donc il a peur. Mais quand le démon te regarde, il fait, oh, moi on dirait qu'il ne sait pas qui il est. Oh, il ne sait pas qui il est. Là, c'est chaud pour toi. Comme les fils de Séva, au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, mais on dirait qu'ils ne savent pas qui ils sont. On va les mater, les gars. Ils ne savent pas qui ils sont. Mais quand tu sais qui tu es, que tu pries, quand tu commences à prier, pourquoi est-ce qu'on prie comme ça tous les jours? Vous pensez que quand on prie comme ça tous les jours, on prie parce qu'on est très religieux? On ne prie pas parce qu'on est très religieux. On prie parce que nous avons reçu une instruction de Dieu pour le ministère et on voit quelque chose dans l'esprit et Dieu dit, vous êtes pour le moment en train de couver, vous avez incubé la vision. Maintenant, la vision, là, il faut la libérer. Et pour la libérer, il faut monter à la montagne, aller devant le trône et puis commencer à insister. Et au bout d'un moment, ça va se libérer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons prier les amis, on doit prier pour l'église, on doit prier pour nos propres vies. Nous devons prier. La première raison très importante pour laquelle nous devons prier, Romains 8 au verset 19, nous dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est la première raison pour laquelle nous devons prier. Pour la révélation ou encore la manifestation des fils. Vous savez pourquoi on doit prier pour la manifestation des fils? Parce que ce sont les fils qui changent les choses. Ce n'est pas les enfants. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire un épios. Parce que quand vous voyez dans la Bible, enfant de Dieu, Chaque fois que vous voyez enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, allez chercher la signification qu'il y a derrière dans le grec. Et dans le grec, il y a trois mots que l'on donne, que l'on traduit en français par enfant. Le premier, c'est népios en grec. Népios, ça veut dire bébé. Tu vois, bébé, quand il vient de naître là, bébé. Il ne connaît rien, il est bébé. Le deuxième mot, c'est le mot technon, qui veut dire enfant, mais pas encore mature. Il est enfant, tu vois, un peu comme les enfants de 7 ans, 8 ans. Tu vois, il a encore besoin de parents, d'accord? Mais il n'est plus vraiment bébé. Il a un peu la capacité de comprendre un certain nombre de choses. Et le troisième mot, c'est le mot ouios. Ouios qui veut dire fils mature. C'est ici le mot que tu vois avec un ardent désir, la révélation des fils. Le mot fils là, c'est le mot ouios, qui veut dire fils mature. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu deviennes mature spirituellement. Mature. Parce que Dieu ne travaille pas avec les enfants. Dieu travaille avec les fils. Amen. Dieu travaille avec les fils. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu grandisses. Les fils, ce sont ceux qui connaissent leur identité en Christ et prennent possession de leur héritage. Et dans la version parole vivante, il nous dit une profonde nostalgie. Tu sais ce qu'est la nostalgie? C'est quelqu'un qui est là, ah vraiment, les fils de Dieu sont où? Les fils de Dieu sont où? Étreint toute la création, elle attend avec un ardent désir la révélation de la gloire des fils. La gloire des fils. Toutes les créatures aspirent à l'avènement de ce jour où Dieu manifestera la vraie nature. De qui? De ses enfants. La vraie nature. Est-ce que quand le monde te regarde aujourd'hui, il voit ta vraie nature? Pose-toi la question. S'il ne voit pas la vraie nature, il est temps que tu ailles à la montagne de la prière et que tu dises, Dieu, on y va. Maintenant, on manifeste. On travaille. On manifeste. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit encore en parlant de fils. Acte 17 au verset 6. On parlait ici de deux fils. L'un s'appelait Paul, l'autre s'appelait Apollos. Et la Bible nous dit dans ce passage, acte 17, ces gens qui ont quoi? Bouleversé le monde sont aussi venus ici. Quand un fils commence à se manifester, il bouleverse les choses autour de lui. Il commence à déranger. Parce que tout simplement, quand il arrive, Jésus-Christ a dit que vous êtes la lumière du monde. Quand il arrive, il est clair. Sa nature est claire. Son ministère est clair. Son entreprise, ses activités est claire. Ses œuvres parlent pour lui. Et les gens qui ne veulent pas que la lumière brille sont dérangés et décident de s'opposer à lui. Et quand l'église que nous sommes, nous les fils, on va commencer à briller dans ce pays-là, le Gabon, vous allez voir les persécutions qui vont se lever contre nous. Quand l'église dans un pays n'est pas persécutée, c'est qu'elle n'est vraiment pas dangereuse. Ah oui, elle n'est pas du tout dangereuse. Regardez les pays où l'église est persécutée. Les pays d'Asie, les pays du Nord là-bas. Parce que là-bas, quand les chrétiens se manifestent, ils sont radicaux. Et comme ils sont en minorité, ils sont très persécutés. Mais un pays comme celui-là, où il y a autant de chrétiens, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que les fils ne se sont pas manifestés. Amen. La première raison, c'est celle-là, pour la manifestation des fils. La deuxième raison, c'est pour la libération de ce monde. La libération de ce monde. Pour le salut des âmes. Ce sont les signes qui amènent la libération. Il ne peut pas avoir de libération sans que la puissance puisse produire des signes. C'est quand les gens du monde, vous pouvez parler, vous pouvez faire toutes les plus belles prédications du monde, vous pouvez construire les plus belles églises, c'est pas ça qui va faire que les gens vont venir à l'église. Qui va faire que les gens vont donner leur vie à Jésus. C'est quand les gens vont commencer à voir des choses concrètement. C'est quand les gens, tu veux que ta famille soit sauvée. Tu pries pour que les gens de ta famille soient sauvés. Qu'est-ce que les gens dans ta famille voient pour les convaincre? Tu es toujours down, à terre, tu ne produis rien, tu cherches le travail. Mais toi là, tu pries tous les jours ton Dieu là, il ne peut pas te donner un travail. Souvent les gens disent ça, non? Et puis tu fais comme David dans le psaume 75, « Oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand tu permettras? Mais lève-toi! Lève-toi et manifeste ta vraie nature. Travaille. Bats-toi. Prie. Je suis fatigué. » tout le temps, je suis fatigué. Regardez dans les églises, on est parti avec ma femme dans plusieurs églises. Au moment où le pasteur dit, alléluia, on va prier, les gens sont assis. Il y en a, ils sont sur leur portable. Nous allons prier pour la parole de Dieu ou bien l'offrande. Les gens sont assis. Il y en a, il est là. Il ne prie pas. Et après, quand on dit, la puissance de Dieu est dans ta vie. Amen, amen. Il n'y a rien de puissant dans ta vie, gars. Ce n'est que le charabia, ça. Il n'y a rien du tout. Et les chrétiens, ils aiment bien les choses qui font du bien là, à leur chair. Là. Oh, tu as vu l'homme de Dieu a parlé. Je reçois. Il n'y a rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Il n'y a rien. Amen. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour finir, je vais commencer à décortiquer un certain nombre de clés qui vont, jusqu'à la semaine prochaine, qui vont nous permettre de comprendre un certain nombre d'actions qu'il faut poser pour pouvoir créer ce mouvement-là, cette puissance-là dans la prière. Dis avec moi 8 clés.
8 clés
pour déclencher la puissance de Dieu. Lorsque nous prions, quand Jésus-Christ dit « Voici les miracles qui accompagneront », je tiens à préciser une chose. Même si Dieu a mis à notre disposition la puissance de Dieu, lorsque tu pries, si Dieu veut se manifester ou bien se glorifier au travers des miracles, gloire à son nom. Mais lorsque nous prions, on ne prie pas pour les miracles. On ne prie pas pour les miracles, on prie pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies et dans son Église. Amen. Et la gloire de Dieu peut se manifester de différentes manières. On peut prier pour les prodiges, pour que Dieu fasse, pour guérisse les gens, etc. Mais si Dieu ne fait pas ça, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. D'accord? Donc on ne prie pas pour les miracles, on prie pour que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Et si Dieu veut se glorifier ainsi, gloire à son nom. Notre priorité à nous l'Église, à nous les enfants de Dieu, notre priorité au-dessus de toutes les priorités, ce sont les âmes. Dis avec moi les âmes.
Les âmes
qui doivent être sauvées, c'est notre seule et unique priorité. Les âmes et encore les âmes. Gagner le maximum d'âmes à Christ. Et s'il y a bien une chose qui amène la puissance à disparaître dans l'Église, c'est lorsque l'Église ne se soucie plus des âmes. Tu n'as pas vu la puissance qui accompagne les ministères des évangélistes. Quand un évangéliste, les évangélistes sont les gens en général qui manifestent le plus de puissance. Parce que les évangélistes, eux, ils vont en guerre. Ils vont dans le front. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec un certain nombre de choses, mais moi, quand on dit évangélisation à un culte comme celui-là le dimanche matin, je ne sais pas qui tu évangélises, mais là, il n'y a que des chrétiens. La vraie évangélisation, c'est devant les païens. Il faut aller au front. C'est la vraie évangélisation, c'est parler de Jésus à quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de Jésus. C'est ça la vraie évangélisation. Car il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Marc 16 au verset 15 dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront. Ça là, cette parole là, c'est pour les païens. C'est pas pour les chrétiens. Les chrétiens, ils sont déjà sauvés. Mais un évangéliste, c'est un guerrier. Et il va devant les non-croyants, et pour que les gens croient, il faut la démonstration. C'est pour cela que moi j'aime des évangélistes comme Renard Bonquet, ces gens-là. Parce que ces gens-là, quand ils prêchent, tu vois la gloire de Dieu se manifester par des miracles de toutes sortes. Parce que l'évangéliste, quand il prie, quand il va prier avant sa croisade, il dit, Dieu, là, il faut que tu te manifestes. Croisade d'évangélisation au Nigeria. Tu sais que là, il n'y a que des musulmans. Ce n'est pas ta rhétorique là qui va faire que. Ils vont te regarder et s'il n'y a rien qui se passe là, ils vont prendre les cailloux et ils vont dire « Sors de chez nous. Sors d'ici, sinon on te tue aujourd'hui là. » Oui. Il y a une histoire, un évangéliste qui a raconté une fois une histoire. Et il disait que c'était un ancien imam qui était venu, il faisait un témoignage, et il est devenu évangéliste cet imam-là. Il a donné sa vie à Jésus et est devenu évangéliste. Et lui, son ministère, il disait que c'était vraiment auprès des musulmans. D'accord, auprès des musulmans. Lui, il prêche les musulmans, dans les pays musulmans. Et ce monsieur-là racontait une histoire que On l'avait invité à un congrès suite à une fête musulmane très importante, etc. Parce que c'était aussi quelqu'un d'important un peu dans le pays. Et on lui demandait de dire une parole, mais on lui avait dit « tu ne parles pas de Jésus ». Et il avait dit « bon, ok, si vous voulez, on dit juste tu dis une parole d'encouragement, etc. » Et lui, saisi par l'esprit, il se met à parler de Jésus. Dans la salle, une salle bondée de gens importants que des musulmans. Et il commence à parler. Donnez vos vies à Jésus. Jésus-Christ est la vie. Le chemin est la vérité. Donnez vos vies. Il parle pendant près d'un quart d'heure, 20 minutes. Les gens étaient là. Quand il finit là, il n'a même pas le temps d'arriver à sa chaise qu'il y a deux personnes qui viennent le prendre sur le côté qui disent « Monsieur, si vous ne partez pas tout de suite, vous êtes mort. » Il raconte que on l'a juste vu partir sur le côté, il a pris une porte et il est sorti. Au moment où il est sorti, il y a des gens qui se sont levés derrière la salle qui sont aussi sortis de l'autre côté pour le suivre. Et quand il passe dans le couloir de l'autre côté, les gens disent « Dépêche-toi maintenant. » Et on l'emmène en vitesse dans une voiture et il commence à rouler. Quand il démarre en voiture comme ça, deux autres voitures aussi, il se met à les suivre en vitesse. Il y a eu une course-poursuite dans la ville parce qu'on voulait le tuer. Et les gens lui faisaient comprendre avec les armes à la main que si on t'attrape là, tu es mort. Il a réussi à arriver à l'aéroport, à prendre l'avion et à partir. Et il racontait à sa croisade que 10 ans plus tard, il était en train de prêcher. Et pendant toute la soirée, quand il prêchait à cet événement où on l'avait invité, il y avait un monsieur qui était devant en train de pleurer pendant toute la soirée. Le monsieur pleurait. À la fin, il finit de prêcher et puis il dit aux gens, amenez-moi le monsieur là, parce que le monsieur là me perturbe. Il pleurait comme un enfant. Et quand le monsieur vient, le monsieur lui dit, vous vous rappelez, il y a 10 ans, à tel lieu, dans tel pays, vous avez dit une parole devant des musulmans et on vous avait poursuivi en voiture jusqu'à l'aéroport. Il dit, oui, l'histoire là m'a marqué, j'ai eu vraiment la peur de ma vie ce jour-là. Il dit, le monsieur qui vous poursuivait, c'était moi. C'était moi. J'ai rencontré la puissance de Jésus-Christ et aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Et quand je vous vois prêcher comme ça et je vois le bien que vous avez fait toute la soirée aux gens, je me dis, je pleurais parce que je disais à Dieu, Seigneur, est-ce que tu te rends compte que j'ai failli tuer le monsieur là? Amen. Vous voyez ce que Dieu peut faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh. Ça, c'est la puissance de Dieu. Pour finir, on n'aura pas le temps d'aborder tout ce que j'ai à dire après, mais on va aborder la première clé. La première clé pour le déclenchement de la puissance, c'est la révélation de la parole de Dieu. Dis avec moi la révélation de la parole. La révélation de la parole. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Tout ce qu'il fait, il le fait sur la base de sa parole. Dis avec moi la parole. Voilà pourquoi on doit toujours chercher à connaître la volonté de Dieu dans sa parole. Si tu pries sans la connaissance de la parole, il n'y a rien qui se passe. Parce que tu tapes au vide. Mais quand tu pries et que tu as reçu une instruction claire qui vient de la parole de Dieu par rapport à ta vie, tu es précis. Et surtout quand tu es convaincu que ça vient de Dieu. La parole de Dieu est très importante. David nous dit dans le livre des psaumes, au verset 119, au verset 130, c'est ce que j'ai mis. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ou encore, français courant, découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement au simple. Plus tu insistes dans la parole, plus tu passes du temps dans la parole, plus tu médites la parole de Dieu, plus les plans de Dieu deviennent clairs pour ta vie. Et plus les plans de Dieu deviennent clairs pour ta vie, plus la foi est grande. Et plus c'est facile d'activer la puissance dans la prière. Dis avec moi la parole. Sans révélation de la parole de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas expérimenter la puissance et les promesses de Dieu. La révélation de la parole de Dieu est très importante. Et la puissance de Dieu ne vient pas quand on connaît la parole de Dieu par cœur. Elle se déclenche quand le Saint-Esprit prend la parole et la rend vivante dans ton esprit. Amen. C'est ce que j'appelle la parole dite de Dieu. Il y a une différence entre la parole dite de Dieu et la parole vivante de Dieu. C'est différent. La parole dite de Dieu, c'est la parole que l'on lit dans la Bible, normalement. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est cette parole-là qui rend libre. Mais pour pouvoir expérimenter le miracle et susciter la foi en nous, il faut expérimenter la parole, il faut que la parole devienne vivante en nous. Est-ce qu'on me suit? Amen. C'est très important. Regardez ce que la Bible nous dit. Romains 10 au verset 17. Ainsi quoi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le mot parole ici, c'est le mot que je vous ai mis là, rhéma. Il y a deux types de paroles. La parole dite de Dieu, c'est-à-dire la parole que l'on lit tous les jours dans la Bible, quand tu médites à la maison, c'est la parole que l'on appelle la parole logos. Hein? La parole logos. Mais la parole qui produit la foi, qui va amener à expérimenter le miracle, c'est la parole rhéma. C'est lorsque la parole devient vivante. C'est lorsque le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et la rend vivante dans ton esprit. Amen. Et c'est pour cela que quand on cherche Dieu dans sa parole, on doit chercher le rhéma. On doit chercher la révélation derrière la parole. Et lorsque cette révélation-là vient dans notre esprit, elle produit quelque chose qui te fait sincèrement sursauter. Tu dis « Waouh !» La parole de Dieu qu'on appelle la Bible dans son ensemble, c'est la parole logos. Le monde a été créé par la parole de Dieu. La parole, c'est le mot derrière logos. Elle commence en Genèse, elle finit en Apocalypse. Toute la Bible parle de manière directe ou indirecte de la parole de Dieu qui a été manifestée chez Christ, c'est-à-dire logos. Mais lorsque Satan va tenter Jésus, il va nous dire dans Matthieu 4, verset 4, le tentateur s'était approché de lui et dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit quoi? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, c'est-à-dire de tout rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, tout rhéma, c'est-à-dire toute révélation qui va venir dans ton esprit au travers d'une des écritures que tu auras lues. C'est ça qui va faire que tu vas vivre. Quand quelqu'un est malade, il est là, il écoute la parole de Dieu, il écoute la parole de Dieu et puis il dit, pourquoi je n'expérimente pas la guérison? C'est parce qu'en lui, il n'y a pas eu suffisamment de foi pour pouvoir créer le rhéma, c'est-à-dire pour que la parole devienne vivante. C'est pour cela que je vous ai dit le premier jour que l'une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de chrétiens ne prient pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de résultats. Ils prient, ils lisent la Bible, ils vont à l'église, mais au bout d'un moment, ils voient que leur vie ne change pas et puis ils abandonnent, ils ne vont plus à l'église. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté la dimension du rhéma. Quand tu vois deux personnes qui sont assises au même endroit, elles sont malades. Il y en a une, à la fin de la prédication, boum, elle se met à marcher, elle est guérie. Et l'autre ne se met pas à marcher. Et l'autre a dit, mais pourquoi lui il a marché, moi je n'ai pas marché. Dieu était bien présent dans la salle, pourquoi Dieu l'a guéri et Dieu ne m'a pas guéri? Eh bien c'est parce que quand le pasteur prêchait, lui, la parole qui est sortie de la bouche du pasteur est arrivée chez lui et elle est devenue vivante dans son esprit. Et elle a créé en lui une foi tellement grande que tout seul par l'esprit s'est levé. Toi, tu entendais la même chose, mais tu ne recevais pas la même chose que lui. On me suit? C'est pour ça que Jésus-Christ dit qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire selon le rhéma que tu auras reçu. Jésus-Christ alla où? À Capernaum. À Capernaum, c'est ça? Non, à Nazareth. Où il ne put pas faire de miracle auprès des siens. À cause de leur incrédulité. Pourtant, c'était Jésus qui parlait. Mais il n'eut aucune révélation. Et il put en guérir juste quelques-uns, dit la Bible. Pas de rhéma. Dis avec moi le rhéma. Le rhéma, c'est ce qu'il faut chercher quand on est dans la parole, quand on cherche Dieu dans sa parole. La puissance que produit le miracle est déclenchée par la parole que tu entends ou que tu lis, qui devient vivante dans ton cœur. Et qui devient en toi un rhéma. Quand Pierre, par exemple, dans Matthieu 14, quand Pierre est dans la barque avec les autres, la Bible nous dit, Matthieu 14, 25, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le « viens » là, c'était le réma de Pierre. Ce n'est pas juste un « viens », c'est que ce « viens » là, dans son esprit, la parole là est devenue vivante. Au point où il a dit « c'est pas impossible de marcher sur l'eau, et je vais marcher ». Et il est le seul disciple qui a expérimenté ça. Pourquoi les autres n'ont pas expérimenté ça? Pourtant, ils ont tous entendu la même chose. Mais il est le seul qui a expérimenté ça. La parole de Dieu. Amen. La parole que Dieu nous adresse chaque jour. Nous tous, nous n'entendons pas tous la même chose. Mais s'il y a bien une clé qui permet de déclencher le miracle et la puissance dans notre vie, c'est lorsque l'on reçoit une révélation de la parole. C'est pour ça que tout part de la parole. Et ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, quand on prie, là, c'est qu'avant, on ait reçu la parole et que cette parole-là, le Saint-Esprit puisse la prendre et la rendre vivante. Le réma, c'est la parole de Dieu, si je peux dire ainsi, parler. C'est quand tu connais les versets bibliques, mais c'est quand tu entends la voix du Saint-Esprit maintenant qui fait résonner ce verset biblique dans ton esprit pendant que tu es en train de prier. Tu es en train de prier, mais il y a une parole que tu avais lue le matin là. Que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». Mais toi là, ça reste juste une phrase dans un bouquin. Mais pendant que tu es en train de prier, il y a une parole qui te... Tu entends la voix du Saint-Esprit qui te dit « tu es riche ». Mais Seigneur, je ne suis pas riche, tu es riche. Et si tu crois en cette parole, tu seras riche. Tu es là, tu es malade, tu as mal dans ton corps. Et tu es là, et tu entends Exode 15, 26, « Je suis El Rapha, le Dieu qui te guérit. » Pas le Dieu qui va te guérir. Dieu ne parle jamais au futur. Il parle toujours au présent parce que pour lui, c'est déjà fait. « Je suis le Dieu qui te guérit. » Et tu entends le Saint-Esprit qui te dit, « Tu es guéri. » Oh, lève-toi. Tu es guéri. Vous n'avez pas vu quand certains pasteurs parlent ou certaines personnes, prédicateurs, et puis il fait, « Tous ceux qui sont malades de telle maladie, vous êtes guéris. » Tu es guéri. Maintenant, lève-toi. Tu vois, il y en a un qui va se lever, tout le monde va acclamer le Seigneur, les autres vont rester assis. Parce que lui, le « tu es guéri » là, il a reçu ça comme un réma. Amen. Et c'est ce que nous devons chercher, la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On va incliner la tête, je vais prier. La parole de Dieu, la parole parlée par le Saint-Esprit dans notre esprit, le réma. Le réma, c'est lorsque le Saint-Esprit fait résonner sa parole en toi. Et c'est la première clé, la révélation de la parole, c'est la première clé par laquelle Dieu va passer pour pouvoir changer les circonstances de notre vie. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on puisse aller chercher Dieu dans sa parole et qu'au travers de sa parole, sur laquelle il veille pour l'accomplir, Dieu puisse faire des choses extraordinaires en chacun d'entre nous. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais au travers de ta parole dans nos vies. Merci parce que tu nous amènes, Seigneur, à comprendre des choses au niveau spirituel. Oh Dieu, que d'autres, oui, peut-être n'ont pas encore compris. Mais Seigneur, si nous, tu nous amènes à comprendre ces choses, ce n'est pas pour que nous restions, Seigneur, dans les mêmes conditions dans lesquelles nous sommes, mais c'est pour que nous commencions à expérimenter, Seigneur, une dimension différente, une dimension plus élevée de la vie dans laquelle nous sommes. Tu dis dans ta parole, monte ici et je te ferai voir les choses à venir. Il est temps que nous montions. Il est temps, Seigneur, que nous augmentions, Seigneur, notre niveau de prière. Il est temps que nous augmentions notre niveau de consécration. Il est temps que nous augmentions notre niveau, Seigneur, de prière. Il est temps que nous entrions dans la dimension de l'esprit et que l'on commence à faire des déclarations de foi sur notre vie. Il est temps, Seigneur, que l'on entre dans la dimension de l'esprit et qu'on active la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans notre vie. Il est temps, Seigneur, qu'on entre dans la dimension de l'esprit et qu'on prenne possession des promesses de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit dans sa parole, voici, tout est accompli. Et si tout tout est accompli dans notre vie, alors nous disons désormais stop à l'échec et nous ouvrons la porte de la réussite, la porte du bonheur, la porte de la prospérité, la porte de la guérison, la porte de la percée, la porte de l'épanouissement personnel, la porte de la vie du Saint-Esprit en nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous levons, Père de grâce, dans la prière pour entrer en possession de notre héritage en Christ, Père de grâce. Et nous déclarons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que à cause, Seigneur, de la présence du Saint-Esprit en nous, l'Esprit de puissance et l'Esprit de grâce, Seigneur, Seigneur, tu es sur le point de faire des choses extraordinaires au travers de ton esprit en nous, Père. Merci pour la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de la lumière, Seigneur, au saint, Seigneur. À cause de la lumière, Seigneur, qui s'illumine, Seigneur, dans notre esprit, nous pouvons voir, Seigneur, notre avenir. Nous pouvons, Seigneur, voir, Seigneur, ce que nous incubons en ce moment, ce que nous pouvons en ce moment. Et par la prière, par la puissance du Saint-Esprit, nous libérons, Seigneur, toute la potentialité que tu as déposée en nous. Nous libérons, Seigneur, le miracle, Seigneur, de notre vie. Nous libérons, Seigneur, et nous libérons, Seigneur, notre délivrance. Nous libérons, Seigneur, les opportunités. Nous libérons, Seigneur, toutes les opportunités qui doivent venir vers nous et nous les saisissons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous appelons à l'existence, Seigneur, toutes les promesses que tu as déclarées sur notre vie. Car tu dis, nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et nous déclarons, Seigneur, que ta gloire resplendira dans nos vies, Seigneur. Et que demain, Seigneur, nous ne mourrons pas. Nous vivrons et nous raconterons toutes les œuvres que le Seigneur aura opérées dans notre vie, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour la prière. Merci parce que tu nous amènes à augmenter le niveau dans la prière, à expérimenter toutes sortes de grâces dans la prière, à te découvrir et à te connaître au travers de la prière. Merci pour la révélation de ta parole, pour le rhéma de mon frère et le rhéma de ma sœur, afin que chacun puisse expérimenter son miracle, expérimenter sa guérison, expérimenter sa paix divine, expérimenter la santé divine, expérimenter, Seigneur, toutes sortes d'opportunités dans la vie, Père, expérimenter ta présence, Saint-Esprit, expérimenter la connaissance de Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ. À toi soit la gloire pour ce que tu fais. Merci parce que là où nous rentrons chez nous, Seigneur, chacun puisse méditer, Seigneur, ses paroles chez lui et entrer, Seigneur, en possession des vérités. Oui, Seigneur, nous refusons de regarder à la réalité, nous regardons à la vérité de Christ, nous regardons à notre position en Christ dans les lieux célestes et non pas à notre condition, Père, au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la louange, Père, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Merci, Père.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.